France Info.
France Info.
La première différence, c'est, je crois, la prise de conscience de l'importance stratégique de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la croissance et dans la création d'emplois. C'est un discours qui, en France, ne pèse pas lourd. Drew Faust, la présidente de Harvard, répétait la volonté que la connaissance est la principale monnaie du 21e siècle.
À condition de savoir transformer cette connaissance en monnaie sonnante et trébuchante.
Oui, absolument. Une quantité vertigineuse de dispositifs dédiés à la diffusion de méthodologies innovantes et à l'entrepreneuriat. Vous avez des incubateurs et des accélérateurs de start-up quasiment à tous les coins de rue qui tentent de toucher les étudiants dès leur entrée à l'université. Il y a aussi, on en a parlé hier, dans le domaine des biotechnologies, des centres de recherche privés qui cassent les frontières entre les disciplines quand les universités ont du mal à le faire. Dans tous les cas, vous avez cette obsession de monétiser les découvertes, de transformer la connaissance en or. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'universitaire, le chercheur américain, il n'est pas plus spontanément entreprenant que le chercheur français. Il n'est pas moins attaché que lui à l'importance de la recherche fondamentale. Il n'est pas moins attentif aux enjeux éthiques. Il n'est pas moins méfiant sur les effets pervers de la privatisation de la recherche. Il n'est pas plus enclin à sortir de son laboratoire ou de sa discipline pour travailler avec les autres. Simplement, au lieu de laisser les choses en l'état, ici, comme d'ailleurs dans la Silicon Valley, on crée toute une série de dispositifs pour diffuser la bonne parole et pour former les étudiants et les chercheurs à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
Et au cœur de ces dispositifs, Emmanuel, on retrouve l'idée de faire.
Voilà, c'est vraiment le message. Do, faites. Il existe aussi ce message dans certaines grandes écoles en France, je pense notamment à des écoles d'ingénieurs, mais pas avec la même ampleur. Là, on est vraiment dans le registre de la réalisation, pas dans celui de la simulation. Ça commence très tôt au Babson College, par exemple, qui est dédié à l'entrepreneuriat. Dès la première année, les étudiants, ils ont 18 ans, montent une mini-activité qui est censée générer de vrais revenus. Et cette obsession du faire, elle s'incarne aussi dans l'importance considérable des activités parallèles aux études. En fait, la délivrance du savoir au sens strict du terme, ça n'est qu'une petite partie de ce que les étudiants viennent chercher à l'université aux États-Unis.
Avec, on l'a vu aussi, le renfort de donateurs, la philanthropie est très répandue.
Elle est même consubstantielle au fonctionnement des universités américaines et à leur histoire. Vous avez derrière ce réflexe du give back, le fait de rendre ce qu'on vous a donné, soit en temps, soit en argent, soit les deux. Et c'est vraiment fondateur du système. Hein. Harvard s'appelle Harvard parce que John Harvard, son fondateur et premier donateur, l'a créé en 1636. Et c'est le cas de nombreux centres de recherche qui portent le nom de leur fondateur, Wyss Institute, Broad Institute, on en a parlé. C'est encore le cas de Babson que je viens de citer. À l'origine, vous avez un Roger Babson. Et en France, sauf erreur ou oubli de ma part, finalement, vous n'avez guère que la Sorbonne qui tienne son nom de son fondateur, en l'occurrence le chapelain Robert de Sorbonne. Et même quand un millionnaire français, ils sont tout de même très rares à le faire, donne de l'argent à l'enseignement supérieur pour créer une école, c'est ce que vient de faire Xavier Niel, et bien il ne l'a pas appelé l'école Niel. Vous avez une autre différence fondamentale avec la France, qui est que le système américain vise à mettre en confiance en permanence. J'ai effectué ce voyage en compagnie de 20 responsables d'écoles de commerce, d'ingénieurs, d'universités français. Tous ont été bluffés par l'aisance de ces jeunes gens d'à peine 20 ans, aisance à se présenter, aisance à défendre ses choix. On est dans un système qui multiplie les dispositifs et les attitudes qui visent à donner confiance.
Alors tout cela est évidemment très positif. Quand même, cet écosystème a-t-il des failles ?
Il en a absolument. Alors la première, c'est justement que c'est un écosystème. Il y en a d'autres aux États-Unis, comme Harvard ou le MIT. Vous avez Stanford ou Berkeley sur la côte ouest, mais ils ne sont pas du tout représentatifs de l'université américaine dans son ensemble. C'est au fond comme si on ne regardait l'enseignement supérieur français que par le prisme d'HEC et de Polytechnique. Deuxième faille, les études coûtent extrêmement cher ici et la crise les rend de moins en moins rentables, si bien que le nombre de candidats à l'enseignement supérieur dans certaines universités est en recul, sans parler de cette épée de Damoclès de la dette étudiante dont l'encours a dépassé 1000 milliards de dollars. Troisième faille, comme dans la plupart des pays développés, les sciences et la technologie n'attirent pas assez de candidats. Vous avez donc ici la multiplication de dispositifs en direction des élèves de l'enseignement secondaire afin de promouvoir les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. Mais les États-Unis ont vraiment ce problème de vivier. Alors comment ils font ? Ils le compensent notamment par cette attractivité de leur enseignement supérieur en attirant des centaines de milliers d'étudiants et de chercheurs étrangers, d'où un travail intense des établissements sur leur image, sur leur marque. Et c'est un problème qui mobilise même les grandes entreprises. L'antenne bostonienne de Microsoft, par exemple, a un programme de promotion des sciences et des technologies pour les lycéens. Et puis vous avez une quatrième faille qui touche à la question de la diversité sociale ou ethnique dans les universités d'élite. Elle est en recul. Donc au total, l'idée qui domine ce matin à Boston parmi les responsables d'établissements d'enseignement supérieur français avec qui j'ai effectué ce voyage, eh bien c'est certes que les grandes universités américaines que nous avons visitées travaillent formidablement bien, mais aussi qu'elles ont un art consommé dans la façon de le raconter et de se raconter. Et cet art, on aurait tout intérêt, disent-ils, à l'importer en France.